Par le lien de la paix, Monseigneur Bernard Nicolas Aubertin, est-ce que cette devise, par le lien de la paix, vous l'avez choisie en fonction de tout votre parcours ?
Alors, je l'ai choisie, cette devise, quand je suis devenu père abbé de la communauté de Lérins. Dans cette communauté, je me suis dit, qu'est-ce qui est important dans ma mission, dans mon travail de père abbé ? Et je me suis dit que l'essentiel, c'était d'être un homme de communion. Faire en sorte que les anciens puissent aimer les plus jeunes, comme nous dit saint Benoît, et que les plus jeunes puissent être à l'aise et vivre en paix, en harmonie avec les anciens. Donc je pense que mon rôle d'abbé était bien celui d'être d'un homme de communion, d'un homme de rencontre, d'un homme de paix.
La valeur essentielle pour vous, que vous mettez en tête de vos valeurs, c'est la communion ?
Oui, quand on voit ce discours d'adieu de Jésus qui parle à ses disciples et qui leur dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». L'importance de la paix, vivre en paix avec soi-même, en paix les uns avec les autres.
Vous êtes d'une génération qui avait bien connu 1968, vous avez fait
Tout
vos études aux alentours de cette période. Est-ce que justement, déjà à cette période-là, vous pensiez de façon aussi profonde à la paix ?
Je suis rentré en 68, en septembre 68, je suis rentré d'Algérie, où j'avais enseigné pendant 2 ans, au titre de la coopération. J'étais séminariste Père Blanc à l'époque, et j'ai passé 2 années en Kabylie où j'ai enseigné. Donc, j'entendais parler de ces fameux événements de 68 en
Vous
se demandant...
Vous enseignez quoi ?
J'enseignais le français et l'anglais à des jeunes de 4e, 3e, en pleine montagne.
Vous êtes parti sous l'initiative de qui ?
Eh bien, ça faisait partie de notre programme de formation chez les Pères Blancs. Tout le monde faisait un stage en Afrique. Nous autres Français, on devait accomplir le service militaire. Il y avait la possibilité de la coopération. Pour moi, ça a été une chance inouïe. Donc, c'était l'occasion pour moi de faire l'expérience de ce que j'aurais aimé vivre plus tard.
Déjà, vous étiez marqué, vous étiez touché par l'islam ?
Oui.
Par le dialogue islamo-chrétien ?
Oui, le désir de rencontrer des gens qui ne partagent pas notre foi, mais qui sont en route sur le chemin de Dieu, peut-être par une autre voie. Pour moi, le dialogue est aussi quelque chose d'important.
Vous avez commencé par rentrer chez les Pères Blancs ?
Oui, tout de suite après mon bac. Alors, un long temps de formation, ça a pris pratiquement 10 ans, avec un temps d'études de philosophie en Suisse, à Fribourg, puis... Ce stage, et puis après, les années de théologie à Strasbourg et à Rome. Donc, beaucoup de... un long temps de préparation.
Et pourquoi ce coup de foudre avec le dialogue islamo-chrétien ?
Il y avait l'importance, l'impact qui était de plus en plus fort de quelqu'un comme le père de Foucault, frère de Charles de Jésus. Sa spiritualité était très fortement développée, diffusée par des gens comme le père Voyaume. J'ai été très, très marqué par ses écrits au cœur des masses, les lettres aux fraternités. Je me rappelle une chose que je trouvais extrêmement beau, non seulement comme titre, mais comme contenu. Mais le titre est déjà révélateur. Quand il parlait de ses frères comme des témoins silencieux de l'amitié divine. Et vous voyez qu'à partir de cette quête profonde, que j'ai reçu en moi-même, qui était en moi-même, il n'y a pas tellement de différence avec le fait de devenir moine un jour ou l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose que je ressentais profondément, vivre silencieusement, témoin silencieux de l'amitié divine.
Alors vous, le don de votre vie, il passe par les Reims, vous êtes père abbé, et de là, on vous demande pour être évêque à Chartres, puis maintenant à Tours.
Oui.
Et en même temps, vous faites des allées et venues entre la France et le Vietnam.
Oui. Notre vie est faite de rencontres et de rencontres qui marquent. L'amour du Vietnam est une chose très, très, j'allais dire, naturelle pour moi. J'avais un ami d'enfance, vraiment un ami d'enfance, dont la mère était vietnamienne. Le père était ingénieur des eaux et forêts, dans ce qu'on appelait autrefois l'Indochine. Et ils habitaient la même rue que moi. Et nous nous retrouvions régulièrement, c'est un de mes meilleurs amis. Donc il y avait la gentillesse, le côté, je ne sais pas comment dire, étrange d'une certaine façon de sa maman, ce côté dépaysant, etc. Et j'étais très très lié à cette famille, ce qui fait qu'il y a toujours eu une curiosité, un attrait, un désir de connaître le Vietnam. Mais je ne pensais jamais que ça se réaliserait dans le cadre d'une vocation monastique. Or, c'est étant devenu moine, à l'abbaye de Lérins. Il se trouve que cette abbaye, dans les années 30, avait fondé une abbaye au Vietnam et que, devenant père abbé, j'ai eu une invitation express des quelques moines qui restaient, il n'était plus que 4 ou 5, me demandant de venir les visiter. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes différents pèlerinages, si je peux dire, et séjours au Vietnam depuis les années 90.
Comment est-ce que vous avez perçu le changement tout au long de ces 15 dernières années ?
D'une part, nous sommes en Asie. D'autre part, c'est encore un pays communiste. L'influence de ces deux données fait qu'on a parfois du mal à comprendre. Il y a des choses qui avancent, puis qui reculent, puis qui repartent. On a l'impression que le pays s'ouvre, et puis de nouveau, il y a des difficultés qui apparaissent, et puis on avance de nouveau.
Par exemple ?
Par exemple, lorsque je suis arrivé pour la première fois, donc on était au mois d'août 1990, d'abord le pays était extrêmement pauvre, et puis au niveau chrétien, personnellement, je ne pouvais pas dire qui j'étais, ce que je faisais, etc. Je suis bien assez sûr que, au niveau des autorités, tout le monde était parfaitement au courant de qui je rencontrais, de ce que je faisais. On ne devait pas dormir ailleurs que dans un hôtel, et pas du tout dans les familles. Pas question de célébrer l'Eucharistie ou etc. en public. Ceci dit, ça ne m'a pas particulièrement gêné. J'ai fait ce que j'avais à faire tranquillement. Mon seul souci était de ne pas créer de problème à ceux à qui je rendais visite.
Pourriez-vous nous raconter une rencontre au Vietnam qui vous a particulièrement bouleversé ?
Ce qui m'a bouleversé, c'est sur les hauts plateaux. Il y a ce que l'on appelle les minorités ethniques. Il s'agit de personnes comme les Jarai, comme les Banar, etc. Donc des personnes qui ne sont pas de la même ethnie que les autres Vietnamiens et qui sont en train de devenir chrétiens et qui ont une pratique religieuse extrêmement forte, extrêmement belle. Et nous avons eu notamment une célébration où il y avait plusieurs milliers de ces jeunes chrétiens. Ce sont vraiment des néophytes, on peut le dire, de quelques années, extrêmement émouvante, avec une foi simple, une foi très forte. Ça, c'est quelque chose qui nous touche énormément.
Comment est-ce que vous expliquez cette croissance des catholiques au Vietnam ?
Au niveau du gouvernement, je pense que les autorités politiques sont plus à l'aise avec les catholiques parce que les responsables sont identifiés et identifiables plus facilement. Il y a une hiérarchie, il y a les évêques, il y a les prêtres. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que nous avons des milliers de chrétiens, alors que nous avons que, quand je dis une dizaine de prêtres, c'est de cet ordre-là. Ce qui veut dire que nous avons toute une église en pleine expansion.
Revenons à Tours. Comment est-ce que la décision, vous l'avez reçue ?
Partir, c'est difficile. Et recommencer,
surtout quand
reprendre.
On est moine.
Oui, oui, bien
qu'on
sûr.
Qu'on a fait vœu de stabilité quelque part.
Oui, je suis toujours frappé par ce passage de l'Exode où on voit cette marche de campement en campement. Et je dis finalement, notre vie, ma vie, ça a été ça et c'est ça. C'est finalement de campement en campement. Le tout, c'est d'avancer.
Quand vous voyez par exemple la soif des Vietnamiens, des catholiques vietnamiens, quelle soif vous ressentez dans le diocèse de Tours ?
Je pense qu'une des plus grandes questions, c'est justement cette question de discernement, de se dire qu'est-ce qui peut combler le cœur de tous ces jeunes ou de ces moins jeunes. Je me rappelle toujours de la boutade d'un de mes confrères qui disait « Avant de donner à boire, il faudrait peut-être donner soif ». Et c'est très compliqué d'arriver à discerner, de sentir, de faire ressentir ce manque, ce besoin, ce désir. J'ai fait deux expériences depuis ces deux dernières années très fortes. Je vais chaque année avec des jeunes à Thésée. Je suis étonné de voir la façon dont ces jeunes font l'expérience du silence et de la prière. Ils n'y rentrent pas comme ça. Le premier jour est toujours difficile. Et puis après, quand on les interroge, ce qui revient toujours, c'est le silence et la prière. Et effectivement, avoir des jeunes qui passent une heure de prière, plus d'une heure d'affilée, enfin deux fois une heure par jour, et qui en sont profondément marqués et touchés, ça veut dire qu'au-delà de la surface, on peut quand même faire sentir quelque chose. Moi, je crois beaucoup à l'expérience. Plus que des discours, faire en sorte que les jeunes fassent une expérience vraie et forte de prière. La deuxième chose que je trouve extrêmement forte et importante, c'est avec les jeunes confirmants. Les jeunes qui se préparent à la confirmation, nous partons avec eux à Lourdes. Et là aussi, expérience de prière. Les jeunes me disent, ici, on prie tout le temps. Ici, on s'occupe des malades et des anciens. Beaucoup plus qu'un discours, faire, amener ces personnes à faire l'expérience. Et là, je repense toujours à ce que dit Saint Bernard, enfin, dans ses homélies. Sans arrêt, ça revient comme un refrain, « Celui qui en a fait l'expérience me comprendra ».